France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 février. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la mort d'un médecin lanceur d'alerte en Chine. Ce praticien de Wuhan a été l'un des premiers à tenter d'attirer l'attention des autorités sur l'épidémie de coronavirus qu'il avait lui-même contracté. Sa mort provoque la colère des Chinois. Nous serons en direct de Pékin dès le début du journal après les autres titres.
Un discours attendu d'Emmanuel Macron sur la stratégie de défense de la France. Une campagne très verte pour les municipales et c'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales. On fume moins à la maison mais toujours trop au travail. Et puis le palmarès des salaires des joueurs de Ligue 1, Paris est magique.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 au micro d'Ali Badou, le comédien et humoriste Vincent de Dienne pour sa pièce La Carpe et le Lapin au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et puis à 8h20, Philosophie, le grand entretien de la matinée avec Pierre-Henri Tavoyot qui préside le Collège de philosophie à la Sorbonne. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. La colère monte en Chine, colère contre les autorités incapables de juguler l'épidémie et qui s'en prennent à ceux qui dénoncent les dysfonctionnements. L'annonce ce matin de la mort d'un des premiers médecins à avoir tenté d'alerter sur les risques liés au coronavirus suscite d'ailleurs une immense vague de réactions. Bonjour Dominique André.
Bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante de France Inter en Chine. Li Wenyang était donc ophtalmo dans un hôpital de Wuhan.
Oui, et je vous propose d'entendre ces derniers mots ce matin qui sont diffusés sur les réseaux sociaux en Chine. Je respire difficilement, je suis à l'unité de soins intensifs. Ces mots du docteur Li sont accompagnés ce matin de bougies et de photos sur tous les réseaux sociaux en Chine. Weibo, le Twitter chinois, a déjà enregistré plus d'1,5 milliard de clics. Beaucoup de Chinois sont restés réveillés cette nuit pour rendre hommage à ce médecin qui est présenté comme un héros. Un extrait d'ailleurs du journal de la CCTV où il avait été accusé d'avoir propagé des rumeurs fin décembre circule.
Récemment, des hôpitaux à Wuhan ont découvert des cas de pneumonie. Certains internautes n'ont pas vérifié l'information. Ils ont envoyé et transféré ces fausses rumeurs sur Internet. Les services de sécurité ont mené l'enquête et vérifié. 8 personnes sont convoquées par la police et cette affaire est portée devant la justice. La police avertit qu'Internet n'est pas au-dessus de la loi. Il faut respecter la loi avant de s'exprimer en public.
Tu es parti. J'espère que c'est une rumeur. Tu es l'étoile qui brille en 2020. À ces commentaires s'ajoute la colère d'internautes qui reprennent les mots du docteur Li avant sa mort, une société saine ne devrait pas avoir qu'une seule voix. La mairie de Wuhan s'est empressée de rendre hommage au docteur Li.
Dominique, le président chinois est sorti de son silence. Il a discuté ce matin avec Donald Trump.
Oui, Xi Jinping a assuré Donald Trump que son pays était entièrement capable de vaincre le virus. Il a appelé les États-Unis à réagir raisonnablement à la crise. La Chine fait un geste en réduisant de moitié ses surtaxes douanières. La mesure va entrer en vigueur le 14 février. Pékin donc envoie un message aux États-Unis, mais aussi aux marchés financiers.
Merci Dominique André. En direct de Pékin ce matin pour France Inter, le bilan ce matin en Chine est donc de 636 morts et plus de 31 000 cas recensés. Ajoutons qu'Air France a décidé de prolonger jusqu'au 15 mars la suspension de tous ses vols vers la Chine. Les résultats définitifs viennent de tomber dans l'Iowa et c'est bien Pete Buttigieg qui arrive en tête de la primaire démocrate avec seulement 0,1% d'écart. L'élu de l'Indiana a obtenu 26,2% des suffrages contre 26,1%. Pour Bernie Sanders, Elizabeth Warren arrive en troisième position et Joe Biden n'atteint pas les 16%. Des résultats très serrés, un bug informatique. Le lancement de la primaire démocrate ne pouvait pas plus mal commencer. Nouveau vote attendu mardi prochain dans le New Hampshire. Un Airbus A320 avec 172 passagers à bord vient d'atterrir en urgence sur la base de Kemimin, une base aérienne russe en Syrie. Selon le ministère russe de la Défense, des missiles syriens ont failli l'atteindre, des missiles tirés par Damas après un raid israélien près de la capitale.
Il est 7h05, Agnès, quelle politique de défense pour la France?
C'est aujourd'hui devant la 27e promotion de l'école de guerre qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer sur la stratégie française. Il devrait notamment confirmer les quelques 37 milliards d'euros consacrés à la modernisation de la dissuasion nucléaire d'ici 2025. Après le Brexit, la France devient la seule puissance nucléaire de l'Union européenne dans dans un monde, Claude Guibal, de plus en plus instable.
1945, Hiroshima, et depuis, la peur de l'apocalypse nucléaire tient entre les mains de 9 pays. Les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni et la Chine, un club initial auquel se sont ajoutés l'Inde et le Pakistan, Israël et la Corée du Nord, un monde atomique en pleine mutation depuis 10 ans, un contexte marqué par l'élection de Donald Trump, les ambitions régionales de la Chine, le retour de la Russie. Le retrait américain des accords internationaux a en fait remis en question la fiabilité de la parole américaine, du coup les pays qui se sentaient protégés par le parapluie américain, tels que le Japon ou l'Arabie Saoudite, s'inquiètent. Le rapprochement avec Pyongyang a lui prouvé au régime autoritaire qu'avoir la bombe était une forme d'assurance-vie. Dans le même temps, le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien a conduit Téhéran à relancer à plein son programme atomique. Après l'ère Obama, tournée vers la dénucléarisation, les États-Unis ont modifié leur doctrine. Depuis 2017, ils privilégient le développement d'armes atomiques de faible puissance. Ils se sont même retirés d'un traité de désarmement majeur sur ses armes de portée intermédiaire, stratégie difficile à ignorer pour la France, troisième puissance atomique mondiale.
En France, le gouvernement dévoile la liste de 7 grandes entreprises soupçonnées de discrimination à l'embauche: Accor, Altran, Renault, Air France, Arkema et Soprasteria. Ces entreprises dénoncent de leur côté la méthode utilisée par l'enquête. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h. 40% de moins de Français surendettés en 5 ans, Le gouverneur de la Banque de France se félicite ce matin des résultats de la lutte contre le surendettement. Mais si les problèmes liés au crédit à la consommation diminuent, ceux liés au crédit immobilier augmentent. C'est le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous voulez voter pour les municipales dans un peu plus d'un mois. Premier tour le 15 mars, second tour le 22. Les démarches se font en mairie ou sur Internet. L'inscription est normalement automatique pour les jeunes de 18 ans, sauf exception. Charlotte Coutard de France Bleu Mayenne est allée à la rencontre des futurs jeunes électeurs.
Pour Théo, ce sera de justesse. Le jeune homme aura 18 ans la veille du premier tour des élections municipales le 14 mars. Il s'est renseigné, il va pouvoir voter.
Parce que c'est un droit de voter, donc autant le prendre, vraiment l'utiliser comme il se doit.
Et vous avez déjà commencé à regarder les candidats ?
Non, pas encore. Je vais regarder ça sûrement au dernier moment.
Théo va voter à Mayenne. Pour Sophie, ce sera Saint-Pierre-des-Nids. La jeune fille a déjà 18 ans, elle est au lycée à Laval et elle s'est inscrite sur les listes électorales.
C'est ma maman qui a fourni toutes les pièces, c'est elle qui s'est occupée de ça. Je sais qu'il fallait ma carte d'identité, mais sinon, pas plus, je ne savais pas plus. Moi, ça me fait peur de voter, mais aussi. C'est comme ça qu'on fait montrer qu'on est citoyen. C'est notre devoir de citoyen.
Mais d'autres ne s'intéressent pas du tout à ces élections. C'est le cas de David et Alison. Ils auront tous les deux 18 ans la semaine prochaine.
Je ne pense pas aux élections, quoi que ce soit. Politique, ce n'est pas trop mon sujet. Mais bon. Pour l'instant, non. Après, avec l'âge, je pense que je m'intéresse plus à la politique, mais pour l'instant, non.
Enfin, j'avais même pas pensé à voter. Enfin, je ne pense pas trop non plus, puisque c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas tout court. Enfin, leur avis. Dans tous les cas, ceux qui choisiront ce qu'ils feront s'ils sont élus.
Vous pensez que ça sert à rien ?
Un peu, oui.
Certains Mayennais pensaient comme Alison en 2014. Le taux d'abstention au premier tour des élections municipales dans le département s'élevait à 41%. Plus de 4 électeurs sur 10 ne s'étaient pas déplacés.
Et parmi les thèmes les plus en vue de cette campagne pour les municipales, l'écologie, d'où le très attendu palmarès des villes où il fait bon être cycliste. En tête, Strasbourg, suivi par Nantes et Rennes. La liste est à découvrir sur franceinter.fr. Des pistes cyclables pour rendre nos villes plus vertes, mais aussi des champs ou des fermes urbaines. Le gouvernement veut promouvoir ces cités fertiles. Au nord de Paris, le quartier des docks de Saint-Ouen est ainsi en pleine transformation. Célia Kiré.
Là, en ce moment, il y a les choux pour faire la soupe. J'ai 100 mètres carrés.
Au bord de la Seine, des potagers, des ruches, des toits végétalisés, une école à énergie positive vont progressivement remplacer les anciennes usines d'Alstom. Cette zone verte, dépolluée, est le cœur et le poumon de cet éco-quartier. Tony Richard est le directeur du projet.
Là où on peut en faire, il faut des fermes. Relocaliser la production, ça permet de réduire tout ce qui est transport. C'est utile et ça crée du lien, bien sûr.
Allez, maman.
Et en pleine matinée, ce sont surtout les nounous et les enfants qui profitent du parc. Mais pour avoir un jardin, il faut patienter.
J'ai pas un jardin. La vérité, c'est très demandé. Il y a beaucoup de gens sur la liste d'attente. Pour les enfants qu'on garde, ils sont ravis de venir jouer ici.
Et autre intérêt, des bassins de récupération des eaux de pluie irriguent ces espaces verts. Louis-Pierre Samin est un entrepreneur, fin connaisseur du quartier.
Ça va effectivement rafraîchir et rendre l'espace urbain moins minéral. Ces bassins ont aussi un rôle à jouer
en période de crue de la Seine. Qui dit dérèglement climatique dit plus de risques de crue. Ces bassins vont absorber une partie des excédents durant ces périodes. Et puis, c'est la biodiversité.
D'ici 5 ans, 20 000 habitants devraient pouvoir profiter de cet éco-quartier, déjà subventionné à hauteur de 24 millions d'euros. À titre de comparaison, l'enveloppe du gouvernement, 20 millions d'euros pour 100 fermes de banlieue, semble bien modeste.
Reportage de Cilia Kiré.
Il est 7h10, Agnès. On fume de moins en moins à la maison, mais encore trop au travail.
C'est ce qui ressort d'une étude sur le tabagisme passif publiée ce matin par Santé publique France. Tabagisme passif qui peut avoir de lourdes conséquences sur la santé, Véronique Julia.
Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer sur les lieux de travail. Et pourtant, malgré la réglementation, près de 16% des actifs de 18 à 64 ans déclarent avoir été exposés à la fumée de tabac des autres dans le mois écoulé. La catégorie professionnelle joue beaucoup dans ce constat. Plus de 27% des ouvriers se disent exposés au tabagisme passif au travail, contre seulement un peu plus de 6% des cadres et professions intellectuelles supérieures, des chiffres qui semblent stagner depuis quelques années. À la maison, en revanche, la discipline progresse. Chez les 18-75 ans, ils ne sont plus que 17% à déclarer que quelqu'un fume dans leur foyer et seulement 12% à dire qu'on les expose ainsi à la fumée de tabac de façon régulière. En 2014, le chiffre était presque deux fois plus élevé. Un effort aussi chez les fumeurs parents de jeunes enfants. Dans leur cas, le tabagisme à la maison a également chuté de moitié depuis 2014. Alors c'est mieux, mais il y a encore du chemin à faire, estime Santé publique France, qui rappelle qu'on trouve dans la fumée de tabac au moins 69 substances cancérogènes. D'après l'OMS, le risque de développer un cancer du poumon augmente de 12 à 19% pour les non-fumeurs exposés à la fumée de tabac au travail.
Santé publique France qui rappelle le numéro de Tabac Info Service pour aider les fumeurs à décrocher, le 3989. Deux nouvelles dates de mobilisation contre la réforme des retraites. Le 17 février, l'UNSA RATP appelle à un lundi noir dans le métro et le RER à Paris. Et l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation, la 10e, le jeudi 20 février. Eux partiront à la retraite bien avant 62 ans et sans souci d'argent. Pour la quatrième année consécutive, le journal L'Équipe, en partenariat avec nos confrères de France Bleu, publie le salaire des joueurs de Ligue 1. Sans surprise, les joueurs du PSG écrasent la concurrence. Vincent Pellegrini.
Et entre le PSG et les autres clubs de Ligue 1, le fossé s'est encore élargi. Les 10 plus gros salaires jouent dans la capitale. Tout en haut du palmarès, Neymar, bien sûr, et ses 3 millions d'euros bruts par mois. Suivent Kylian Mbappé, près de 2 millions d'euros, et Thiago Silva, 1,5 million. La masse salariale du PSG s'est encore alourdie avec les arrivées de deux nouveaux très gros salaires, le gardien Keylor Navas et l'avant-centre Mauro Icardi. Au total, 8 joueurs parisiens gagnent plus d'un million d'euros par mois. En comparaison, le joueur le mieux payé de la Ligue 1 hors PSG, c'est l'attaquant monégasque Wissam Ben Yedder qui émarge à 650 000 euros. Sur le plan européen, le club de la capitale fait partie des plus généreux. Il figure dans un groupe de tête où l'on retrouve le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City et la Juventus Turin. Mais dans un très proche avenir, le PSG devra gérer sa masse salariale avec prudence. Il est toujours sous la surveillance du gendarme financier de l'Union européenne de football.
Et le record en Europe, c'est effectivement Lionel Messi qui gagne 4 millions d'euros par mois au FC Barcelone.
Merci Agnès Soubiran.